suite et fin des matins de France Culture. Claude Lanzmann est l'invité spécial de France Culture aujourd'hui à l'occasion de la parution du Lièvre de Patagonie. Vos mémoires, Claude Lanzmann, qui paraissent aux éditions du Seuil.
Gallimard.
Crime, évidemment, Gallimard. Ah ouais. Mais à maxima culpa, Claude Lanzmann.
C'est un crime de la part de Lanzmann, surtout.
Quoi ?
Est-ce que vous avez des regrets, Claude Lanzmann ? Lorsqu'on voit une vie si riche, si intense, est-ce qu'il y a des choses dont vous vous dites, voilà, je suis passé à côté, j'aurais pu les faire, les accomplir, et je ne l'ai pas fait ?
Non. Franchement, je n'ai pas... Je n'ai pas de regrets, c'est comme ça. Elle est comme ça, ma vie, elle a été... Ouh là là, elle a été. Il y a un truc.
On va monter un peu le son dans votre casque. Il est trop fort ou trop faible ?
Ah, pardon.
Beaucoup trop fort. C'est Olivier Duhamel qui l'a tourné à bloc.
Pardon.
Voilà.
Des regrets ?
Des regrets, c'est d'avoir à mourir, c'est tout. C'est le seul regret. Parce que Non, des regrets, c'est de ne pas avoir mieux fait les choses que je ne les ai faites. Par exemple, quand je parle de la résistance et de la guerre, je me dis très bien, j'ai fait des choses objectivement dangereuses, mais je ne me suis jamais posé la question de savoir, puisqu'on en parlait tout à l'heure, comment je me conduirais si j'étais pris. Comment, si on m'a demandé d'ouvrir votre valise où il y avait des grenades, des pistolets, des trucs, comment, si j'étais pris, si on commençait à me torturer pour faire donner des noms, j'aurais pas pu tellement donner tellement d'ailleurs parce qu'il y avait un cloisonnement formidable. Or, il y a des gens, moi j'ai lu des livres là-dessus qui se jetaient du deuxième étage ou du troisième étage de la prison de la santé quand on les conduisait à l'interrogatoire, et qui sont restés depuis fracassés, mais qui ont...
Qui
était prêt à la mort, je ne sais pas.
C'est pas un regret, puisque c'est aussi parce que, comme vous le décrivez dans votre livre, vous aviez une certaine inconscience du danger, vous avez pu faire un certain nombre de choses.
Non, j'étais à la fois très conscient du danger et inconscient. Je ne me posais pas la question jusqu'au bout. Mais peut-être que si je me l'étais posé jusqu'au bout, je n'aurais rien fait.
Et lorsque vous regardez aujourd'hui Shoah, Claude Lanzmann, ce chef-d'œuvre, ce monument, est-ce que vous vous dites, voilà, aujourd'hui... Il y a des choses que je n'aurais pas tournées de la même manière. Je n'aurais pas monté le film de cette manière-là. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez reprendre, retoucher ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est là, tout simplement là, ce film existe et il n'y a rien à reprendre ?
Non, on ne peut pas entrer dans ce genre de considération. On ne peut pas, je ne retouche rien. C'est comme ça. Dans l'ensemble, le film me satisfait complètement tel quel. Oui, il y a des choses que je n'ai pas faites. Par exemple, quand les traductrices traduisent mal, bon, ça arrive. À un moment donné, dans le film, il y a ce grand héros de l'insurrection du ghetto de Varsovie, Antek Itzhak Zuckerman, qui dit, il me parle à moi. Et on voulait pas me le montrer parce qu'il a bu après la guerre. Et donc il avait un visage un peu d'ivrogne. On comprend pourquoi il a bu. Et il me dit, Claude, si vous pouviez lécher mon cœur, vous seriez empoisonné. Bon, j'ai léché le cœur de beaucoup de gens. Et il me dit... J'ai commencé à boire après la guerre, et la traductrice traduit, c'était très difficile. Moi, je ne parle pas hébreu, donc je n'avais aucun moyen de la contrôler. Or, il dit, ne dit pas « j'ai commencé à boire après la guerre, c'était très difficile ». Il dit « j'ai commencé à boire après la guerre lorsque je suis monté sur cette tombe immense ». Bon, c'est pas du tout pareil. Je me suis posé la question, c'est des problèmes déontologiques, est-ce que je mets des sous-titres, est-ce que je corrige la traductrice en montrant sa faute, et puis j'ai décidé finalement de ne pas le faire. Bon. Et en Pologne également, avec les Polonais qui disent toujours « Jitki » au lieu de « Jidi », c'est la traduction de « juif ». Et Jitki, c'est sale petit juif, youpin, etc. Et ils disent tout ça. Et elle traduit par juif. Elle gauchit, elle adoucit. Bon. Et chaque fois que je tombe sur des gens qui parlent polonais, je me fais engueuler, comme si c'était ma faute. J'ai pas voulu faire ça. Donc, tant pis. Les erreurs vont avec le film.
Alain Gérard.
Il y a une scène extraordinaire dans ce livre, c'est celle où vous racontez la projection à Mitterrand. Et il n'y a pas de sous-titres, justement. Et c'est vous qui faites la voix.
Oui.
C'est vous qui dites le texte. Et c'est tout à fait étonnant parce que ça dure quand même assez longtemps. Et vous êtes au bord de l'extinction de voix. On est obligé de vous faire boire et vous avez tenu quand même.
Pendant les plus de 9 heures.
Alors, j'évoque cette anecdote.
Mitterrand, c'était les deux premières heures et demie.
Ah bon? D'accord. Bon, enfin, c'est déjà une performance.
La projection de l'Élysée. Mais après, j'ai fait des projections. Ouais. Les films n'étaient pas sous-titrés. Ouais. 9h30. Et je traduisais pendant 9h30.
Pendant 9h30.
Et mes assistantes étaient là avec des bouteilles de citron pur. Et... Mais comme je savais vraiment le film par cœur, je savais où placer ma voix, où trouver des silences. C'était difficile avec des gens qui parlaient très vite. Mais autrement, je m'en suis sorti mais c'était une épreuve physique lourde. Quand même.
J'évoque ce point pour une raison très simple, c'est la symbiose chez vous entre le visuel, qui est extrêmement fort, et le texte. Et on amène le même sentiment, mais alors à rebours, à la lecture de votre livre, c'est-à-dire qu'il est plein d'images qui frappent extraordinairement. C'est-à-dire qu'entre l'homme de cinéma, l'homme d'image et l'homme de littérature, d'une certaine façon, vous êtes très très rare. C'était un peu le rêve qu'ambitionnait Malraux, ça.
C'est un peu, pardon ?
Le rêve qu'ambitionnait Malraux, c'était un peu ce qu'il poursuivait, lui. Il aurait voulu être à la fois l'homme du cinéma, il l'a été d'ailleurs.
Ah ben
il l'a
oui.
été.
Il
Claude Lanzmann. Enfin voilà, ça n'appelle peut-être pas de réponse, c'était pas vraiment une question. Marc Ravetz.
Ah pardon, je vous avais dit que
c'était une question que vous me posiez.
Oui. Pas vraiment, puisqu'elle ne se terminait pas par un point d'interrogation.
C'est
plutôt un commentaire.
Si vous êtes un homme de cinéma ou un homme de littérature, si vous percevez davantage
je
comme l'un ou l'autre.
Deux. J'aime voilà. écrire. Ouais. J'aime écrire et il y a des choses que quand j'ai commencé ce livre, dont je ne pensais absolument pas parler, des choses de ma petite enfance, même, et des choses difficiles à dire. Des choses sur ma famille. Et puis ça s'est imposé à moi et j'avais plaisir à les écrire. Je ne savais pas si je parlerais de ma sœur. Et c'était très difficile parce que j'ai jeté toute sa vie en un seul chapitre et où je fais intervenir Sartre et Simone de Beauvoir alors qu'ils ne sont pas encore apparus dans le film. Je n'ai pas présenté Beauvoir encore. Et j'ai eu une joie de plus en plus forte à écrire.
Clémentine. Moi, j'étais assez touchée par le personnage de votre sœur, tel que vous la racontez, le personnage aussi de votre mère, dont on ne comprend pas forcément toujours très bien d'ailleurs exactement quelles sont vos relations et la manière dont, au fond, finalement, vous la percevez. Et puis, Simone...
Personnage formidable, en tout cas, Pauline.
Quoi ?
Personnage formidable, celui de votre mère.
Ah oui.
Mais une dureté dans la relation avec vous.
Elle était très dure avec son engeance. Il faut comprendre que ma mère, c'est une héroïne. En 1934, quand même. 34, c'est pas aujourd'hui. En 1934, la condition de femme mariée et de mère, j'écris d'ailleurs, elle s'évertuait à la maternité. Il y a un poème de La Fontaine, je ne sais plus lequel, il court, il s'évertue, c'est ce mot-là qui m'est venu, c'est La Fontaine qui m'a fait employer le mot s'évertuer. La condition de femme mariée, le mariage, la maternité, c'était... Elle quitte un jour son mari, ses trois enfants, en 1934, en laissant un mot. Moi, j'avais 9 ans. Même pas. Mes chéris, je vous aime, je reviendrai, etc. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle part sans un sou. Et elle part travailler en usine où elle sertit des boîtes de conserve pendant un an. Et après, elle vit avec des anarchistes italiens parce que le mari de sa sœur était italien. Moi aussi, je le raconte, ça, c'est une belle histoire quand même. Mon grand-père, le père de ma mère, qui était un juif de stricte observance, un géant de 1m94, ma tante était tombée amoureuse d'un Vénitien qui s'appelait Tony Gaggio. Il n'a jamais voulu donner sa fille à un incirconcis. Et Gaggio aimait tellement ma tante qu'il s'est fait circoncire à l'âge de 34 ans. Ça a été un choc pour lui parce qu'après, il est devenu un grand joueur de belote dans les bistrots de...
Il y a un lien de cause à effet.
Comment on passe de la circoncision à la belote?
Pardon?
Comment on passe de la circoncision à la belote? Il y a un lien qui m'échappe.
Écoutez, il était fort aux cartes. Et
puis... Ça reste mystérieux.
En tout cas, vous soldez une série de contes. On voit bien aussi dans le rapport à Deleuze entre votre sœur et Deleuze, on a l'impression que vous avez envie de solder des contes. Moi, j'ai été très intéressée, évidemment, par les passages nombreux et la place que tient Simone de Beauvoir dans ce livre. J'avoue même avoir été relativement étonnée. Et j'aurais juste une question, c'est de savoir ce que vous gardez pour le monde contemporain de la pensée de Simone de Beauvoir et de l'apport pour aujourd'hui, en fait. Pas simplement le temps que vous avez partagé avec elle, mais en quoi sa pensée et celle de Sartre peuvent aider à comprendre le monde contemporain. Parce qu'en lisant Les Temps modernes, parfois j'ai l'impression que il y a un décalage entre ce qui a été leur rapport à l'époque et ce qu'on peut en faire aujourd'hui par rapport à ce qu'en font les temps modernes.
Claude Lanzmann.
D'abord, c'est pas la même époque. Hein. L'époque a changé. Les temps modernes ont été créés en 1945. On est en 2009. Et puis, Sartre, c'était Sartre. Moi, c'est moi. Enfin. Mais ils sont pas mal, les temps modernes. Ils sont très bons, même, je trouve, actuellement, et aussi bons qu'au début. Les temps modernes, il y a des hauts et des bas dans une si longue histoire. Il y a des périodes de pointe, il y a des heures de reflux. Mais là, on n'est pas en reflux, au contraire. Et qu'est-ce qui reste de la pensée de Sartre? C'est ça votre question?
Non, c'est qu'est-ce que vous gardez, notamment sur Simone de Beauvoir, de fondamental pour penser le monde contemporain aujourd'hui?
Je crois qu'ils m'ont vraiment appris à... Ils m'ont appris à penser. Je le dis, ils m'ont appris à penser. Je leur donnais à penser, parce que j'étais un drôle de phénomène dans leur vie. Et puis, il faut faire attention, parce qu'il y a des articles qui sont un peu... mal foutu, c'était pas une partouze entre Simone de Beauvoir, Sartre et moi, hein. Pas du tout.
C'est assez clair dans le livre d'ailleurs.
Quoi?
Non, je dis c'est assez clair dans le livre.
Bon. Et Sartre l'est infiniment admiré. Je crois que je suis très très profondément sartrien dans ma...
Qu'est-ce que ça veut dire être sartrien?
Dans ma façon d'écrire par exemple, dans le goût de la totalisation, il y a des choses plus subtiles encore. Enfin, mais ça ne m'a pas empêché d'être... c'est pas géographique ce livre du tout. Il y a des choses que je dis sur Sartre qui n'ont jamais été dites. Et que je dis, la relation de Sartre au terrorisme... La relation de Sartre à Israël, par exemple. Enfin, ce qu'il dit des damnés de la terre, sa préface aux damnés de la terre de Fanon, que j'ai relu et que je trouve très rhétorique quand même. Et je le dis tout ça.
Et... Marc Rabetz.
Est-ce que c'est tellement important ? Oui, c'est rhétorique. C'est fut aussi une époque rhétorique. Je voudrais prendre les choses dans un autre ordre. Votre livre, Claude Lanzmann, c'est pas le genre de livre dont on dit c'est bon, c'est pas bon. C'est un torrent. C'est un témoignage, je trouve, d'une telle force que, à travers la question de Clémentine Autain, je m'en étais d'ailleurs pas rendu compte. Honte sur moi, mais on voit bien qu'il peut y avoir une question d'une autre génération. C'est mais quelle époque était-ce que, en gros, qu'on ne pourra pas connaître, qu'on n'a pas connu. Votre livre, c'est un formidable reflet d'un temps formidable. Ce que vous léguez en réalité avec ce livre, je ne dis pas que c'est un monument qui précéderait le fait qu'on le mettrait sur une pierre tombale.
Mais qu'on le mettrait
sur une pierre tombale. Mais c'est tout de même.
C'est pas testamentaire. Hein.
C'est exactement. Ça, je suis d'accord. Mais c'est un monument du siècle. Et on a le sentiment que, en gros, vous voudriez transmettre, malgré tout, le message que l'aventure vaut toujours la peine d'être vécue à des gens qui n'ont pas envie de vivre des aventures, qui voudraient bien avoir des idées, mais qui n'ont pas envie de vivre des aventures. Et puis, il y a autre chose qui me frappe beaucoup à travers ce livre, c'est qui probablement, d'ailleurs, est l'une des clés de sa lecture, qui pourrait en être une difficulté, qu'en réalité est probablement un immense attrait pour ne pas le quitter, c'est le mode de temporalité que vous utilisez, qui rappelle fort l'un de vos amis, qui n'est cité que dans un passage, mais je sais que vous avez été ami plus longtemps que ça, qui est Armand Gatti. Vous avez exactement la même vision du temps que Gatti, c'est-à-dire un temps explosé, où c'est vous qui êtes le contemporain du temps, c'est pas le temps et la chronologie qui vous dictent
l'histoire. Ouais, le livre n'est pas l'histoire. Chronologique ça, au sens le plus simple.
Ça, c'est formidable.
Claude Lanzmann.
Oui, la chronologie, ça m'a toujours fait horreur.
Pourquoi ?
Parce que je trouve que la chronologie est une plate succession d'avant et d'après. Bon, et ça détruit tout, tout suspense. Il est bon de savoir d'avance ce qui va se passer quand même. Dans les tragédies, c'est ça. Si je meurs dans 3 minutes, c'est pas impossible, c'est un accident. Et si vous savez que je vais mourir et moi pas, il y a un suspense quand même très considérable qui se crée. Mais il n'y a pas de chronologie dans Shoah non plus.
Ah non,
je n'ai pas écrit une ligne de scénario pour Shoah, pas une ligne. Et je n'ai pas écrit non plus une ligne pour faire ce livre. J'ai démarré un beau jour. Je ne savais même pas par où j'allais démarrer. Et j'ai démarré par la guillotine, parce qu'en effet, la guillotine est quelque chose de central chez moi. Et comme j'ai une pensée, non pas chronologique, mais circulaire, on peut entrer n'importe comment et on retombe toujours au centre. Et moi, je retombe sur mes pieds.
Ça, c'est proprement sartrien. Enfin, Sartre, je ne sais pas comment dire. Enfin, c'est vraiment là, on sent une très profonde parenté avec Jean-Paul Sartre.
Oui.
Un mot, Olivier ?
Non, Marc Ravetz vient de dire ce que je voulais dire, c'est que c'est ça la réponse à la question Sartre, de Clémentine tout à l'heure. Écrire sartrien, c'est ça.
Sartre, dans son Flaubert, a tout une longue introduction pour dire comment entrer dans la vie de Flaubert. Alors, il imagine toutes les entrées possibles, et puis finit par dire, je vais commencer quand même par le début, Flaubert est né le, etc. Et ensuite, il conduit une biographie, absolument. Tandis que vous tenez le pari, c'est ça qui est intéressant, et c'est là que je vous repose la question de l'homme de cinéma. C'est ça qui est tout à fait passionnant dans ce livre, c'est-à-dire que la structure de Shoah et la structure de ce livre se ressemblent à bien des égards dans la démarche. Et donc ma question est, quand vous avez fait ce livre, est-ce que vous avez voulu parler de vous, de votre vie ou de l'auteur de Shoah ?
Claude Lanzmann, et ce sera le mot de la fin ?
Oui, je réfléchis 2 secondes. Hein.
Prenez votre temps.
Je savais que le livre déboucherait à la fin sur Shoah. Ça, je le voulais. Donc c'était le livre de l'auteur de Shoah, mais c'est moi quand même.
Oui, bien sûr,
et j'ai Et c'est quand je vous disais qu'en écrivant, j'ai fait des chapitres dont je ne pensais pas du tout les écrire. Les vendanges, par exemple, dans une colle de vendangeurs auvergnats, mon frère et moi, en 1940, mentant sur notre âge et porteurs de bachol et nous effondrant parce que c'était trop lourd pour nous. Bon, c'est ma vie.
On va s'arrêter là, c'est ma vie.
Ben, si vous voulez, on peut commencer là.